Vous écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Léa Schiavo.
Et je suis Marine Stizy. Bienvenue dans le second épisode.
La vérité se cache-t-elle dans les bouquins? Peut-on découvrir le monde au travers des livres?
Pour ce deuxième épisode de La Vagabonde, cet épisode estival, nous allons parler de corps. Qu'est-ce qu'un corps? Une enveloppe? Un véhicule? Pourquoi on a longtemps ou toujours séparé le corps de la femme de sa subjectivité?
Parce que le corps est le plus souvent le lieu d'un discours et le plus souvent énoncé par les hommes. À ce moment-là, le corps de la femme cesse de lui appartenir. Il est scruté, étudié, contrôlé. Il est le lieu de croyances et de superstitions. Mais toute cette attention, alors qu'on pourrait croire que c'est au bénéfice en fait, de la femme, de sa santé, de son esprit, est en fait l'instrument d'une domination, voire d'une oppression, sa place dans la société et l'espace public, ce qu'il représente. C'est un sujet très vaste, multiple et un peu casse-gueule aussi, puisqu'évidemment, on ne peut pas prendre la parole en fait, pour toutes les femmes du monde. Et déjà, le faire pour nous-mêmes, c'est déjà pas mal. Et ensuite, ce sujet, il se déploie aussi sous plein d'aspects différents et il a fallu aussi qu'on réduise nos angles d'attaque. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans la Vagabook aujourd'hui, Marine?
Dans la Vagabook, nous avons Beauté fatale de Mona Chollet, Ceci est mon sang d'Élise Thibault, et le roman graphique de Liv Strömquist, qui s'appelle L'origine du monde. Vous remarquez, un roman graphique qui est une grande première dans l'histoire de la Vagabook. On va aussi parler de Hunger de Roxane Gay, et nous vous ferons entendre quelques poèmes issus du recueil Lait et miel de Roupicor, lu par Clémence Bénazet. Mais avant d'aborder le sujet plus profondément, faisons un petit tour de nos autrices.
Oui, on a Mona Chollet d'abord, qui est donc une journaliste franco-suisse. Journaliste et autrice, elle écrit pour Le Monde diplomatique et elle est notamment l'autrice de Sorcière, qui est son dernier ouvrage et paru l'année dernière aux éditions La Découverte. Elle travaille beaucoup sur une analyse sociale, sociologique et politique et elle aborde aussi beaucoup les thèmes, des thèmes féministes et d'inégalité sociale et de société. Là, pour le coup, on va parler de son essai Beauté fatale, les visages d'une aliénation féminine, qu'elle a publié en 2011 aux éditions La Découverte, toujours. Et elle y développe en fait la question du corps comme étant la clé d'une avancée des droits des femmes.
Ensuite, on parle d'Élise Thibault, qui est une journaliste et autrice française. Elle a notamment un blog sur Mediapart, qu'on vous recommande de checker d'ailleurs de temps à autre. Elle y parle de femmes, bien sûr, mais aussi de société ou encore d'inégalité sociale, elle aussi. Elle est aussi membre d'une asso qui s'appelle Avocates sans frontières. Elle se bat, entre autres, contre la lapidation. Ceci est mon sang, publié en 2017 et sorti au mois de mars dernier en poche aux éditions La Découverte. Et c'est une enquête sur les raisons, les origines du tabou que sont les règles pour les femmes du monde entier.
Et on a Liv Strömquist, qui est elle, une autrice suédoise de bande dessinée. Elle est aussi journaliste de télévision et animatrice de radio. Dans ses BD, elle parle beaucoup de féminisme, d'écologie, de société. Notre choix s'est donc porté sur L'origine du monde, qui est donc un roman graphique, ou peut-être qu'on pourrait dire aussi essai graphique, et elle enquête sur ce qu'on appelle les organes féminins.
Et Roxane Gay, qui est américaine, elle est professeure d'université, journaliste, éditrice et autrice. Elle s'est fait connaître par le grand public grâce à son livre Bad Féministe, qui est une série d'écrits dans laquelle elle aborde le genre, la politique et la société. C'est de son dernier livre publié en France que nous allons parler, Hunger, un témoignage sans phare sur son obésité et sur ce qu'elle considère comme étant la raison de cette obésité, à savoir un viol collectif dont elle a été victime adolescente. Et pour se protéger et pour protéger son corps, devenir invisible, elle mange pour disparaître aux yeux des hommes.
Vous vous souvenez de quand on était gosse et qu'on nous disait d'un ton évident « Bah ouais, faut souffrir pour être belle ». Aujourd'hui, en 2019, on a environ la trentaine et on réalise enfin tout le mal que cette expression a pu nous faire. Et du coup, on aimerait bien prendre le contre-pied en fait, de cette affirmation. Et franchement, elle nous paraît tellement grotesque que...
Tellement stupide.
qu'il a fallu qu'on en parle. Mais évidemment, c'est pas si simple, en fait. Aujourd'hui, on a l'impression que le ton change, effectivement. Il y a de plus en plus de projets qu'on peut labelliser « feel good » ou « body positive ». Des marques annoncent cesser la retouche de leurs photos, partout on réclame de voir de plus en plus de naturel, de vrais corps dans le monde entier. Et malgré tout, il n'y a jamais eu autant de solutions pour modifier son physique. Voilà, pour faire une liste non exhaustive, des seins plus gros, un nez plus fin en Corée, des yeux moins bridés, un ventre moins gras ou même carrément en faire diminuer la taille des petites lèvres. Et je parle évidemment du sexe.
Quel enfer.
On a aussi des crèmes, évidemment, pour lifter les rides, pour faire disparaître la cellulite, etc.
Ouais, mais la vraie question, c'est qui décide de ce qui est beau ? À quoi bon répéter que les canons de beauté diffèrent selon les endroits ou selon les époques si personne ne prend tout ça en considération ? Et les gars, pourquoi tant de douleur ? Non, parce qu'en fait, se refaire faire le pif, ça fait mal.
C'est pas marrant.
Non, mais ça fait mal. Et alors qu'on a tendance à penser que les femmes qui se mettent dans des états pas possibles pour atteindre un idéal de beauté le font par choix, on s'est bien rendu compte que en fait, c'est pas tellement, ça n'avait rien à voir. C'est pas une question de choix. On n'en est pas là. Et mais alors, encore une autre question. Pourquoi diable nous font-ils subir tout ça ? D'où ça vient ? Est-ce que le monde a toujours été comme ça ?
Ça perd l'hypopète, presque.
Est-ce que partout, tout le temps, les hommes décidaient de ce qui était beau et de ce qui était montrable ou non, de ce que nous avions le droit de faire, nous, les femmes ?
Nous sommes tous nés si beaux. La plus grande tragédie est d'être convaincu que nous ne le sommes pas.
Tout à leur manière, les autrices se penchent sur des raisons actuelles, sociétales et sociologiques de cette oppression, qu'on pourrait dire masquée. Pourquoi le monde se plaît-il à faire croire aux femmes qu'elles ne peuvent pas penser, choisir et s'aimer comme elles sont ? Qu'est-ce que ces injonctions disent de notre société ?
Sur ces questions de notre sélection, enfin dans la Vagabook, ce sont principalement Mona Chollet et Élise Thébault que nous allons citer. Beauté fatale dans son genre est un livre très très franc, qui ne mâche pas ses mots. C'est aussi cette manière sans concession qui clairement fait du bien. Ça m'a un peu fait le même effet d'ailleurs avec Sorcière, son dernier ouvrage, le bouquin un peu star de sa carrière. Après, en fait, tous les bouquins de Mona Chollet, moi je dois dire, je les corne dans tous les sens parce qu'en fait je trouve tout hyper éclairant.
Pareil, le mien, il ressemble plus à rien.
Ah ouais, c'est chaud, mais chaque page, je me dis, mais putain, mais c'est brillant ce qu'elle dit là. Elle met des mots sur tous les sentiments, c'est des bibles, ce bouquin, c'est un truc de dingue. Mais n'empêche, il faut quand même préciser que Beauté fatale est un bouquin qui a été écrit pré-MeToo.
Oui.
Et étant donné qu'il s'agit d'un bouquin qui parle beaucoup d'actrices, en réalité, ça a son importance.
Elle était en avance, en fait.
Ouais, clairement.
C'est-à-dire qu'elle parle de l'oppression dans le monde du mannequinat, par exemple, qui fait totalement une preview à ce qu'on a eu avec MeToo.
Tout ce qui va être dénoncé, c'est éclairant de dingue. Après, le côté sans concession de ce bouquin, je pense que c'est un peu le critère de tous les livres dont on va parler, en fait.
J'ai l'impression. Là.
Ouais, ça fait partie des règles d'or.
et effectivement, moi, du coup, pareil pour Mona Chollet, et je l'ai mise un peu en lien aussi avec le style d'Élise Thébault et le sens didactique dont elles font preuve les deux. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est l'ironie dans la manière qu'elles ont d'exprimer, d'exposer les choses, les oppressions. Et elles ont aussi un vrai sens de l'humour, ce qui n'est pas à éluder parce que ça met beaucoup de connivence en fait avec les lectrices.
Puis ça rend les choses tellement plus personnelles.
Oui, voilà, c'est ça. Et comme en plus elles font appel à leurs propres expériences, elles les mettent en miroir avec des faits de société, avec des propos beaucoup plus larges et qui ont une portée du coup sociologique et politique, c'est hyper intéressant et ça fait miroir avec nos propres expériences personnelles. Et moi, c'est ça que je trouve très, très élégant aussi, c'est la manière d'entremêler l'intime et le politique dans leurs écrits. Et tout ça avec de l'humour, ce qui pour moi est une marque en plus d'élégance et de finesse. Et
oui, clairement.
Voilà, c'est assez efficace.
Ouais. Mais revenons à notre question de départ. Pourquoi ? Pourquoi faire croire aux femmes qu'elles ne sont pas assez finaudes pour penser par elles-mêmes ? Et surtout, comment ? Comment est-ce que c'est mis en place tout ça ? Parlons des magazines. Les magazines qui clairement sont une incitation à faire de la femme une créature avant tout décorative. Ça c'est Mona Chollet qui le dit. Il y a cette hypocrisie des magazines à rendre hommage à des mannequins anorexiques décédés, à s'offusquer de centres de beauté pour petites filles. Genre Mona Chollet est terrible avec le magazine Elle.
Ouais.
Enfin ils s'en prennent mais bon après voilà il y a plein d'exemples qui font que tu dis bah ouais,
oui,
c'est chaud, ouais, elle a raison. Mais ils s'en prennent vraiment plein la gueule. Et ils ont aussi cette manière à dénoncer l'instrumentalisation, machin, mais c'est clairement les premiers à publier des photos de mannequins très très maigres et à parler des dernières tendances en matière de chirurgie esthétique.
Et quand tu lis ça, tu te sens un peu flouée et un peu prise pour une quiche. Et d'ailleurs, ça me fait penser au magazine Cosette qui réserve toute une partie de son magazine
une rubrique qui s'intitule
On nous prend pour des quiches et qui recense un peu les trucs abusés qu'on peut lire dans les médias par rapport à la femme, etc.
Mais ça fait surgir pas mal de questions sur les modèles en fait qui nous sont proposés. Quelles images une petite fille reçoit? Et il y a un discours qui se généralise aujourd'hui qui est de dire que si les modèles étaient plus divers, si on représentait de manière vachement plus large des femmes plus ou moins dodues, avec des nez, des seins plus ou moins gros, on serait moins tenté de vouloir ressembler à ces images conformes à un standard quasi unique, quoi.
Oui, voilà, c'est complètement standardisé et c'est un procédé complètement radical que ces magazines appliquent, puisqu'ils nous disent en fait tout simplement que notre préoccupation principale doit être en fait le physique.
Sois belle et tais-toi.
Ce qui est assez réducteur. Et surtout, on remarque dans un mode d'analyse un peu plus large que c'est surtout un nouveau moyen de contrôler la femme. Parce que pendant que la femme s'intéresse principalement à savoir si ses ongles sont bien manucurés, si ses sourcils sont bien épilés, elle s'intéresse ni à la politique, ni à créer, à réfléchir ou à théoriser sur des choses peut-être un peu plus importantes. Et Mona Chollet d'ailleurs le dit très bien en citant notamment une théorie qui s'appelle le backlash. En français, disons le retour de bâton, qui a été en fait théorisé par Suzanne Faludi dans les années 90 dans son livre qui s'intitule tout simplement « Backlash ». Et en fait, c'est le retour de bâton des luttes de la deuxième vague de féminisme. C'est-à-dire que dans les années 60, on a eu une vraie avancée en termes de féminisme, suite notamment à la Seconde Guerre mondiale, où les femmes avaient pris la place des hommes dans le fonctionnement du pays. Donc elles sont sorties du foyer pour pouvoir prendre part. Elles ont travaillé, tout simplement. Et effectivement, suite à ça, donc on a eu une embellie en termes d'avancée des droits des femmes, avec notamment la pilule contraceptive qui a été et l'avortement qui ont été autorisés. Et malgré tout, ça a été suivi dans les années 80 par un retour de bâton, c'est-à-dire qu'on a trouvé un nouveau moyen de contrôler les femmes et de les cantonner au foyer, c'est-à-dire que on a trouvé dans la mondialisation et la société de consommation des outils qui lui permettaient de vivre mieux sa place au foyer, la machine à laver, l'aspirateur, le Wonderbra, bref. Donc on s'est bien empressé de les remettre à leur place et ça s'est fait notamment via ce matraquage d'images véhiculées par la publicité et ça a été permis en fait par la société de consommation. Et d'ailleurs, à ce sujet et au sujet de la puissance perverse des images sous mondialisation, il est intéressant aussi de lire Naomi Klein et nos logos. C'est un peu un autre sujet, mais ça donne une belle idée.
Mais moi, dans ce genre, quand j'ai lu cette partie dans le bouquin de Mona Chollet, typiquement, j'étais là genre « Putain, qu'est-ce que c'est éclairant,
ouais.
Putain, qu'est-ce que c'est intelligent !» Genre, j'en pouvais plus.
Et diabolique en même temps.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est diabolique parce qu'aujourd'hui, le risque est toujours présent. C'est ce que d'ailleurs disaient dernièrement justement Mona Chollet et Gloria Steinem dans un interview sur France Culture. Le backlash est toujours d'actualité puisqu'après MeToo, on a vu qu'après MeToo, la parole se libérait, etc. C'était super. Mais ça a été suivi par la montée des populismes, à la fois en Europe, aux États-Unis. Et donc, on peut voir clairement que le droit des femmes continue à reculer dans certains pays. Et au passage, on salue évidemment l'Alabama et ses mesures totalement dystopiques en matière de droit à l'avortement.
Ouais. Ouais. Reprenons aussi sur la question de l'épilation, machin, du temps qu'on passe à se préparer et tout, choisir des fringues, blablabla. Penser si la tenue qu'on a choisie pour notre premier jour de boulot, ça véhicule une bonne image et tout.
Ouais.
Ça, c'est des questions que les mecs ne se posent absolument pas. Et c'est aussi ils ne se la posent pas parce que la société n'exige pas d'eux qu'ils se la posent. Et mine de rien, c'est assez parlant. Prenons un exemple qui, pour le coup, parlera à tout le monde. Qui se fout de savoir comment Emmanuel Macron est habillé ?
Personne. Non,
c'est bon. Ouais, c'est ça, tout le monde s'en carre. Par contre, sa femme, Brigitte Macron, elle est épiée sans cesse.
Ouais.
Le nombre d'articles qui sont parus dans la presse pour parler de la texture de ses cheveux, de la longueur de sa jupe. Est-ce qu'une femme de son âge doit porter une jupe aussi courte ? Parce qu'en plus, il y a la question de son âge qui s'est rajoutée à tout ça. Enfin, bref, c'est terrible. Et c'est des exemples comme ça, il y en a mille. Je ne sais pas, on va prendre Georges et Amal Clooney.
Ouais.
On parle tout le temps de Amal Clooney comme la femme de Georges Clooney. Alors qu'en fait, cette nana, elle est militante des droits de l'homme, elle a défendu des mecs genre Julien Assange, elle a une carrière de dingue, et en fait, il y a quasiment que des articles de Vogue parlant de sa manière absolument irrésistible de s'habiller. Alors certes, elle est hyper belle, on ne peut pas lui enlever, non, elle s'habille hyper bien, mais venez, on ne parle pas que de ça, c'est absolument insupportable, sachant que personne ne parle de comment George Clooney est habillé, on s'en fout.
Enfin, ouais, mais ça frise l'obsessionnel en fait. C'est scruter la femme dans la manière de s'habiller. On a aussi l'exemple, par exemple, de Cécile Duflo à l'Assemblée nationale qui s'est faite siffler parce qu'elle portait une robe. Absurde.
Une robe à fleurs.
Voilà. Puis les commentaires de Trump. Enfin, ça, c'est presque débile d'en parler parce que cet homme, on n'en attend pas mieux. Mais les commentaires de Trump sur le physique d'Hillary Clinton lors de la campagne, alors qu'en réalité, elle ne concourait pas par rapport à son physique, mais par rapport à son programme politique. Enfin, bon, voilà. Alors, on parle d'aujourd'hui, mais en fait, tout ça, c'est pas nouveau. Et ça remonte même à très, très loin. Et c'est Liv Strömquist, d'ailleurs, qui débute l'origine du monde de cette manière, c'est-à-dire en dressant le tableau de ces hommes qui se sont un peu trop intéressés au corps des femmes, parlant à leur place et dictant leur conduite. Parmi eux, j'ai noté la présence de Saint Augustin, qui est un théologien chrétien du 4e, 5e siècle, qui n'est pas forcément le plus radical de ceux qu'elle décrit, mais qui a des effets sur des siècles et des siècles. Globalement, en fait, avant la fameuse théorie de Saint-Augustin, dans l'Antiquité, le sexe avait une valeur presque sacrée et considéré comme un cadeau des dieux. Et puis Saint-Augustin, d'un coup, s'est mis à décider qu'en fait, le sexe était une traîtrise envers Dieu. Il a trouvé son explication dans, évidemment, l'histoire d'Ève et d'Adam, puisque leurs sexes sont la marque de leur désobéissance par rapport à Dieu. Ils ont commis le péché originel et donc doivent cacher leur sexe par une feuille de vigne. Donc tout ça, c'est marqué de honte. Et en fait, Saint Augustin a développé cette idée à l'infini en disant que puisque tout le monde était descendant d'Adam et Ève, tout le monde est pécheur dès la naissance, comme eux. Et surtout, c'est la femme la première fautive, puisque c'est à cause d'elle qu'Adam a cédé à la tentation. Donc voilà, du coup, suite à ça, l'idée s'est répandue que le sexe de la femme, voilà, que le sexe de la femme et son corps de manière plus générale est sale, impur, honteux. Et donc il a fait le buzz, hein, avec cette théorie, puisque c'est en fait ce que le christianisme a apporté à la représentation du corps, et notamment du corps féminin, dans la société occidentale, enfin dans le christianisme, voilà.
Merci beaucoup.
Merci Saint-Augustin.
Mais en fait, dans Liv Strömquist, elle a pas mal de petits exemples comme ça, notamment elle parle de John Harvey Kellogg, qui est un médecin américain ayant vécu au début du siècle dernier et qui est en partie connu pour être l'inventeur des cornflakes.
Il aurait pu en rester là.
Ouais, clairement. Il aurait mieux fait de rester au petit-déj, parce que lui, pour le coup, sa lutte, ça a été aussi de lutter contre l'onanisme féminin, qui est donc en d'autres termes, la masturbation et la stimulation du clitoris. Il prétend que tous les maux des femmes, notamment les cancers ou la fameuse hystérie, viennent de là. Il disait aussi qu'il ne fallait pas dépasser plus d'un rapport sexuel par mois pour des raisons de santé.
Il était rigolo comme tout.
Oui, mais pour en revenir au sexe féminin, c'est à mettre aussi en rapport avec ce que dit Élise Thibault dans son livre sur le dégoût des femmes de leur propre anatomie. Notamment en termes de protection, genre les tampons, à leur création, avaient tout de suite un applicateur. Hors de question de trop se toucher. On entend aussi beaucoup cet argument sur la cup, ce petit instrument, je ne sais pas comment expliquer, mais qui est utilisé aujourd'hui par pas mal de nanas pendant leurs règles. Mmh. Et il y avait beaucoup cet argument comme quoi il faut être très à l'aise avec son corps.
Parce qu'il
n'y a pas d'applicateur. Enfin, entre guillemets, pardon pour ça, mais il faut y mettre les doigts, quoi. Non, mais c'est vrai, parce que sinon, ça ne marche pas. Et ça, en fait, tout ça présuppose que la femme n'est pas à l'aise avec son corps, de fait. Et ça aussi, c'est ce qu'on nous a enseigné. Se toucher, c'est impur. Mais au cas où certaines tenteraient de le faire quand même, par curiosité ou simplement par désir, il a fallu au travers des âges trouver des astuces pour contrer ces envies d'attouchement. Donc le mec aux céréales, hein, lui, c'était acide sur le clitoris. Genre, on n'en parle plus.
Un petit peu radical.
Un peu extrême. Il y a eu un médecin qui s'appelle Isaac Biker Brown qui préconisait carrément l'ablation. Hein, pas de clitoris, pas de problème. Voilà. Mais l'ablation du clitoris était censée, là aussi, soigner toutes sortes de maux. De l'hystérie, évidemment, aux maux de tête, au manque d'appétit et aussi la désobéissance.
Voilà.
Voilà, hein. Et du coup, la dernière ablation a été pratiquée en 1948 sur une petite fille de 5 ans. Ce qui, obligatoirement, nous amène à évoquer l'excision, qui, pour le coup, elle, est une pratique qui est toujours d'actualité. Il y a pas mal de femmes qui luttent pour ça, ouais. Contre ça, même en Europe encore aujourd'hui. Hein, ouais. C'est un truc très répandu. Et juste, petite parenthèse sur Brown, le médecin qui pratiquait l'ablation. Il a fini par être radié de l'ordre des médecins, cet homme-là, parce qu'il avait pratiqué des ablations sur des femmes mariées sans l'accord de leur mari.
Ah.
Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a été radié, parce qu'il n'avait pas demandé l'accord du mari.
Mm. Pas très professionnel.
Pas très pro.
Et oui, ça, c'est encore un exemple pour décrire le corps des femmes comme utilisé pour les stigmatiser, les rendre coupables. Et dans l'histoire, on a aussi un épisode un peu sombre, qui est la chasse aux sorcières, qui a duré à peu près du 15e au 18e siècle, où les inquisiteurs en fait, cherchaient les traces du diable sur le corps des accusés. Ils s'amusaient beaucoup.
Et qui pouvait être un grain de beauté.
Oui, voilà, tout à fait, des marques de naissance. Et pour certains, même le clitoris pouvait être la marque du diable. Donc maintenant, ça nous fait sourire, mais en réalité, quand on pense à ces mécanismes d'accusation, c'est glaçant.
Ouais, c'est glaçant.
Et qui plus est, ces marques sont censées aussi être les traces d'un coït entre le diable et la sorcière, ce qui était aussi une belle manière de fantasmer sur une hypothétique sexualité libérée des femmes, ce qui, a priori, n'était pas censé du tout être à l'époque. On peut parler aussi de l'histoire de, alors je vais pas prononcer bien je pense, mais de Sartre Bartman, que Liv Strömquist décrit également dans son roman graphique, qui était en fait la Vénus hottentote. La Vénus hottentote. Le baron Cuvier, donc au début du 19e siècle, à la mort donc de la Vénus, qui, par ailleurs, avait donc passé sa vie à être exposé en foire du fait de son corps.
Comme un animal de cirque.
Voilà, exactement. Il a donc, le baron Cuvier s'est dit qu'il allait la disséquer et utiliser les parties de son corps, et donc notamment sa vulve, pour étayer ses théories racistes.
S'il trouvait qu'elle avait les fesses particulièrement grosses, par exemple.
Oui,
ce genre
voilà,
de chose.
C'était ça. Ouais. Ouais. Donc, en fait... En fait, on remarque qu'à la fin du XVIIIe siècle, quand le pouvoir de la religion diminue au profit de la science, donc au siècle des Lumières, il est utilisé pour légitimer de nouveau l'infériorité des femmes. C'est-à-dire qu'avant,
il a fallu trouver une
voilà un moyen de d'oppression.
Exact. Ouais.
C'est-à-dire qu'avant, on avait la religion comme sainte excuse pour justifier de l'impureté des femmes parce qu'elles étaient donc les pécheresses et les traîtresses devant Dieu. Puis, aux Lumières, on a eu la science qui a été utilisée pour justifier de l'impureté du corps de la femme, puisqu'il était forcément, puisqu'il était différent, il était forcément inférieur à celui des hommes.
Ton corps est un musée de catastrophes naturelles. Peux-tu saisir combien c'est renversant ? Accepte-toi comme tu as été conçu.
N'empêche, entre autres horreurs, je pense qu'on pourrait prendre une minute pour se féliciter. Nous autres les femmes, d'avoir survécu à ces centaines d'années de tentatives d'écrasement. Franchement,
effectivement.
Du coup, je suis vachement fière d'être là aujourd'hui pour parler de tout ça.
Vivante et entière.
Vivante, entière, avec un cerveau qui fonctionne. Bon, voilà. Mais n'empêche qu'en lisant tout ça, on a quand même réalisé pas mal de choses.
Oui, parce qu'on sent qu'il y a un bug quelque part quand même. Quand on est jeune notamment, quand on sait pas trop, on se dit qu'il faut absolument parfois avoir les sourcils épilés pour avoir du succès au collège. Ou alors dernièrement, il y a eu aussi ce phénomène du side gap, qui est donc de laisser un espace entre les deux cuisses pour signifier qu'on est assez mince. Enfin, on s'en tape complètement en vrai, mais à un moment donné, même quand tu reçois ça et que ça devient la norme, tu peux pas t'empêcher de te dire que quelque part, t'es quand même un peu plus que ça. C'est-à-dire que t'as envie aussi de montrer que t'es drôle, intelligente, de séduire aussi par ta personnalité, enfin des trucs assez élémentaires. Oui. Mais en vrai, il faut du temps pour s'en rendre compte, et surtout, il faut des modèles, d'où l'importance en fait des images, et puis aussi du coup de textes comme ceux de Mona Chollet, d'Élise Thiébaud, de Roxane Gay, qui permettent d'accéder en fait à une forme de conscience qui est du coup tout à fait salutaire. Mais ce temps de prise de conscience, il est à la fois long et il est aussi douloureux. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard du coup si Mona Chollet a sous-titré son livre « Les nouveaux visages d'une aliénation féminine ». En fait, elle décrit, elle utilise même cette phrase qui est « un esprit absent dans un corps objet ». Avec cette phrase, en fait, elle décrit tout simplement la réification du corps dont les femmes sont victimes et qui se fait du coup au détriment en fait de leur existence spirituelle, mentale. Ce que je trouve le plus tragique en fait dans l'histoire.
Aussi. Mmh, mais l'aliénation, c'est aussi d'accepter des remarques, des douleurs comme si elles étaient normales. Et ça, c'est notre second point. Mmh. Par exemple, parlons des médecins. Ces hommes médecins qui disent aux femmes si elles ont mal ou non. Mmh. Si elles ont le droit d'avoir mal. Mais pour revenir à cette petite phrase que nous avons utilisée en introduction, puisqu'il faut souffrir pour être belle, les femmes, si par hasard elles choisissent de faire de la chirurgie esthétique, qui est un choix terrible, une construction et une projection des valeurs d'une société sur un corps, hein, la défaite de la nature, mais la victoire de la société de consommation, disons-le comme ça.
Voilà.
Ça reste néanmoins un choix quand même, mais un choix dont les hommes refuseront que les femmes se plaignent ensuite, si par hasard elles ont mal. Parce que elles l'ont bien voulu quand même.
Ou alors ça peut être minimisé aussi dans le sens où c'est la fameuse question en fait de la valeur qu'on accorde à la parole des femmes, etc., de savoir si elle est légitime ou pas. Mais bon, c'est un peu un autre sujet.
En fait, pas tant que ça, c'est pas tant un autre sujet, dans le sens où il y a un exemple à un moment qui parle d'une femme opérée du ventre. Un médecin oublie un outil dans son abdomen, elle a des douleurs terribles jusqu'à la perforation du nombril, et le médecin acceptera finalement de l'opérer uniquement parce que l'affaire a été médiatisée. Mmh. C'est quand même un truc de dingue. Et pareil, Roxane Gay, elle parle d'un épisode de sa vie d'ado au sujet de sa douleur et de la manière dont on ne l'a jamais cru. Lorsqu'elle a été opérée de la vésicule biliaire et qu'elle est prise de douleurs hyper vives, le personnel du pensionnat ne la croit pas. Il sous-estime complètement la brutalité de l'intensité de la douleur. Enfin, personne ne la croit. Mmh. Et elle évoque aussi, mais plus vieille pour le coup, devenue autrice à succès et tout, elle est invitée à des conférences où elle est invitée à participer en tant qu'autrice. Et on ne lui propose que, c'est un détail, mais que des chaises avec des barreaux sur les côtés. Et en fait, Roxane Gay, elle est obèse. Mmh. Et du coup, quand elle s'assoit sur cette chaise, ça la cisaille complètement au niveau de la cuisse. Après, elle a des bleus, des bleus sur l'intégralité de la cuisse. Et personne ne lui propose une autre chaise, alors que tout le monde voit qu'elle galère.
Oui, en réalité, ça se voit, mais personne ne s'en soucie.
C'est ça, exactement. Mais après, il y a aussi une autre douleur, devenue complètement banalisée, qui est celle des règles. C'est probablement la douleur, avec la douleur de l'accouchement, qui est devenue la plus normale de l'histoire. Que les femmes souffrent depuis toujours, de toute façon.
Tu enfanteras dans la douleur. C'est ce que la Bible dit.
Quelle horreur!
Donc au moins c'est cadré. Quoi.
Oui, c'est ça, il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Mais sur les règles, c'est quelque chose aussi. Bon, c'est monnaie courante. Après, il y a des trucs genre les chocs toxiques. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire sur France 2 il y a quelques années qui mettait vraiment en lumière ces jeunes filles victimes de la composition des protections hygiéniques et notamment des tampons. Et c'est
qu'on n'a toujours pas d'ailleurs.
Qu'on n'a toujours pas. C'est complètement glaçant. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui. Enfin, ce n'est pas une affaire d'État.
Mm-mm.
Et ça, moi, ça me rend dingue. Ce n'est pas une affaire d'État. Des gamines meurent à cause d'un tampon et ça passe.
Ouais.
Pas de souci. Il y a l'endométriose aussi, qui est une maladie vieille de l'Égypte ancienne, quand même, que nous commençons seulement maintenant à comprendre et surtout à soigner. Il y a 10% des femmes qui sont victimes d'endométriose. C'est un chiffre un peu aberrant. Et au Moyen-Âge, pour le coup, ce sont des symptômes les symptômes de cette maladie étaient considérés comme démoniaques. Et ça faisait partie, comme tu disais tout à l'heure, des choses qui faisaient que les femmes étaient condamnées de sorcellerie.
Bref,
et donc, potentiellement, qui en mouraient, du coup. Et Élise Thibault, dans son bouquin, cite Éric Petit, qui est docteur et fondateur du Centre de l'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Elle le cite en ces termes. « Les femmes victimes d'endométriose sont vues comme des dérangées mentalement et indignes moralement. On les enferme dans des asiles de fous, allant jusqu'à dire, comme toute évidence, que cette hystérie est liée à de la nymphomanie.
» Bel exemple de stigmatisation. Et d'ailleurs, quand on nie en fait la douleur des femmes, comme tout ce que tu viens de dire, Marine, quand on estime qu'elles sont pas légitimes pour l'exprimer, ce que dit Mona Chollet, c'est que c'est carrément la négation de la subjectivité en fait de la femme. Tu n'es plus un sujet, tu es juste un corps-objet. Mmh. Et dans ce cas-là, on la croit pas capable d'émettre un avis pertinent, légitime. Et en réalité, c'est diabolique parce qu'elle est prise en otage en réalité par la société et elle a plus d'autre choix que de subir ce qui a été décidé pour elle. Par exemple, comme ce que tu disais pour les règles et la composition des protections périodiques.
Autrement. Oui.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, il y en a qui se font beaucoup d'argent là-dessus. Deux géants d'industrie pharmaceutique se partagent à peu près le marché mondial de la protection périodique qui se chiffre du coup en milliards.
Mm-hmm.
Et qui carrément, alors outre le fait qu'ils ne donnent pas la composition des protections, ils se servent du caractère indispensable des protections pour vendre une expérience, pour en faire un coup marketing. On nous le décrit sans cesse comme une expérience positive. Et d'ailleurs, le mot expérience, c'est pas anodin puisque c'est considéré en fait un fait de santé, un fait physiologique comme une tranche de vie. Un truc qu'on a peut-être le pouvoir de transformer, genre prenez le pouvoir, achetez des tampons avec applicateur. Bon, bref. En gros, c'est toujours donner l'illusion que le marketing, la consommation peuvent modifier notre corps et son fonctionnement, alors qu'en réalité, on parle de santé publique.
Oui, bien sûr. Et puis, c'est un mépris qui se remarque d'ailleurs aussi dans la tarification appliquée sur les protections.
Oui, tout à fait.
Il y a la fameuse taxe rose qui sévit encore. Hein. Mais nous, il y a encore quelques années en France, les produits hygiéniques comme ça étaient taxés à 20%.
Ouais.
Préciser quand même que le coca est taxé à 5,5.
Oui.
Alors que les tampons étaient taxés à 20%. C'est passé à 5,5 aussi maintenant. Mais quand même, l'aberration...
Grâce à des associations féministes en 2015. Oui,
bien sûr, mais c'est complètement aberrant.
Oui.
Mais ça signifie que pour un certain nombre de femmes, il faut faire il faut faire un choix en fait, entre presque se nourrir et se protéger lors de ces règles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'assos aussi qui s'occupent de récupérer des protections hygiéniques, pas que ça, mais aussi des savons, des déos, pour les donner aux femmes qui vivent dans la rue.
Ouais.
Parce que ça coûte très très cher. Enfin, une boîte de tampons, ça coûte très cher. Et pour des femmes qui n'ont même pas de quoi manger, c'est problématique. C'est très problématique.
C'est ce qu'on appelle en fait la précarité menstruelle. Il y a beaucoup d'associations qui se mobilisent là-dessus en ce moment.
Ouais.
D'ailleurs, le 28 mai, je crois que c'est la journée internationale de contre la précarité menstruelle.
Quelle pute science.
Voilà.
Mais bon, en fait, dans tous les cas, c'est une prise d'otage.
Enfin, ouais.
On peut jamais en fait échapper à ce type de dépenses. Voilà, c'est comme ça.
Et d'ailleurs, c'est le même procédé en fait avec la beauté. C'est-à-dire que les canons de beauté sont matraqués par la pub, aussi dans les films, bref, dans les images qu'on continue, qu'on reçoit en permanence. Et c'est aussi un excellent moyen en fait de décider pour nous de ce qui est bon ou pas. Voilà,
on nous rabâche tout ça. Ouais.
On nous rabâche, exactement. et Mona Chollet emploie l'expression « négation féroce de la subjectivité des femmes ». J'ai bien aimé cette formulation.
Elle est surlignée dans ton bouquin.
Oui, trois fois peut-être. voilà, en fait, c'est juste tout simplement nier la possibilité de s'accomplir en tant qu'individu, nier en tant que femme, enfin, individu, tout simplement. Et c'est vrai qu'elle fait appel à des exemples assez terribles, notamment dans le monde de la mode, parce qu'il y a ceux qui reçoivent les images, il y a aussi ceux qui les créent, entre guillemets, et notamment les conditions de travail, par exemple, des mannequins. Qu'on considère, selon Inès de la Fressange, tout simplement comme un cintre. Il y a aussi cette petite anecdote sur quand on prête un bijou précieux à une célébrité, il y a un garde du corps avec elle, mais en réalité, ce n'est pas la personne qui le porte qu'on garde et qu'on protège, c'est le bijou et sa valeur. donc voilà, en réalité, on a nos sources d'inspiration sont relativement limitées à partir de ça, quoi.
Et complètement biaisé.
Oui, voilà. Et c'est vrai que cette idée d'être juste un corps et pas forcément un sujet, elle raconte aussi une anecdote sur une hôtesse d'accueil que l'on ne reconnaît pas sans ses talons, enfin, une fois qu'elle est en civil, entre guillemets. Et c'est un truc qui m'est arrivé aussi dans mes boulots précédents où j'étais dans l'événementiel et où, voilà, j'étais pimpée en mode tailleur, escarpin, rouge à lèvres, un peu comme ce qu'on nous disait de faire, souriez les filles et soyez agréables. Et puis je me changeais, je repartais en basket et j'avais peur de passer devant mes interlocuteurs, donc que ce soit les entreprises que j'avais accueillies ou quoi. Ainsi mal fagotée, et en réalité je me suis rendu compte après coup qu'ils ne me reconnaissaient même pas sans mes talons et mon rouge à lèvres, donc bon... Voilà, et à ce sujet, il y a Roxane Gay aussi qui en parle assez bien et de manière assez douloureuse, puisque elle, du fait de son obésité, elle sent vraiment que son corps est scruté, commenté de façon incessante, à tel point qu'elle a l'impression qu'il cesse de lui appartenir. C'est-à-dire que ces commentaires incessants font que son corps tombe quasiment dans le domaine public. C'est-à-dire que tout le monde prend ses libertés de, le, voilà, de lui dire,
donner
de le
son
critiquer,
avis.
Donner son avis, exactement. Mmh. Et en fait, voilà, à partir de là, bah, elle ne se sent plus ni professeure d'université, ni écrivaine, mais en fait, elle devient juste obèse. En fait, pour
juste une femme obèse.
Voilà. Ce qui est assez réducteur. À peine.
Nier la douleur des femmes, nier sa possibilité d'émettre un avis, c'est aussi invisibiliser un débat. De nombreux mécanismes ont été mis en place pour qu'une forme de honte naisse, que le tabou s'installe. Un des exemples les plus parlants est peut-être que le clitoris ne soit que depuis très peu de temps représenté dans la littérature scientifique. C'est en 2007 seulement qu'un schéma du clitoris est pour la première fois publié dans un manuel scolaire. C'est très récent, c'était il y a 2 ans. Ce qui nous amène aussi à parler de sexe, car qui dit corps dit sexe, d'une certaine manière. Au cours de l'histoire, l'idée que les femmes n'avaient pas d'appétit sexuel se fait une belle réputation. On en a parlé plus tôt, mais le clitoris est considéré comme le père de tous les maux, de cette fameuse hystérie dont, me concernant, juste le mot me fait hérisser les poils. La femme, si elle veut être pure, doit être vierge à tout prix. Et la naissance des 3 religions monothéistes ne sont pas sans lien avec cette nouvelle idée. T'as parlé du christianisme tout à l'heure. Et les femmes ne doivent pas avoir de vie sexuelle épanouie. La différenciation de la mère, la putain, ça vient de là.
C'est pratique. C'est assez binaire, c'est simple. On n'est pas perdu. Et d'ailleurs, c'est Liv Strömquist qui en parle très très bien. Et d'ailleurs, je trouve que c'est d'autant plus parlant que son moyen d'exposer tout ça est un roman graphique. Puisque du coup, elle fait le double travail de discours, de représentation, à la base, à la fois par le graphisme et aussi par un texte très bien documenté, forcément, où elle fait la lumière sur ces mécanismes d'invisibilisation du corps féminin. Donc, on salue son travail parce que on manque cruellement de représentation aussi.
Et d'ailleurs, du coup, elle parle aussi pas mal de cette idée de trou que peut être une femme. C'est en partie Jean-Paul Sartre qui a théorisé cette affaire. On salue Simone de Beauvoir, hein, qui a dû l'aimer beaucoup, cet homme-là, pour lui pardonner ce genre de délire. Et donc le trou comme étant l'opposé du sexe masculin. Et on oublie les parties externes du sexe féminin, du coup, dans cette affaire. Que c'est aussi ainsi que se forgent des représentations pouvant notamment mener au succès de la chirurgie esthétique sur les petites lèvres pour les rétrécir.
Voilà. Et au passage, d'ailleurs, c'est toute cette méconnaissance-là, elle se reflète aussi dans les nombreuses confusions linguistiques qu'on utilise pour définir les parties du sexe féminin. C'est toujours Liv Strömquist qui le dit. Donc, il semblerait donc que vulve soit systématiquement omis au profit de vagin, ce qui, en soi, ne signifie pas la même chose.
Pareil.
Et ça expliquerait donc aussi pourquoi de nombreuses femmes en 2019 réalisent plutôt tardivement, sur les coups de la vingtaine, de la trentaine, que telle partie ou telle autre partie se nomme ainsi, ou par exemple clitoris, entre autres, et qu'elles n'avaient pas non plus réussi à le placer sur la carte de leur corps. À ce sujet, d'ailleurs, il y a pas mal de comptes Instagram, notamment, qui font beaucoup de médiation là-dessus, de pédagogie, qui malheureusement font face à beaucoup de censure de la part d'Instagram, mais il y en a plusieurs, il y a Jouissance Club... T'as joui, ou je me rappelle. Il y en a plusieurs qui font un peu de pédagogie à grande échelle et c'est important.
Ouais. Et puis, même, je sais pas si vous avez vu, si vous habitez des grandes villes, il y a des gens qui placardent des schémas de clitoris sur les murs.
Que tout le monde se le dise.
Que tout le monde sache que ce petit machin qui ressemble à un dinosaure, c'est un clitoris. Mais toute cette méconnaissance vient aussi des théories de Freud. Pour le coup, que contrairement à Simone de Beauvoir, je ne salue pas, puisque c'est de lui que vient l'opposition entre orgasme clitoridien et orgasme vaginal, comme si c'était deux choses distinctes et qu'il y en avait surtout un qui prévalait sur l'autre.
Oui, ouais. Bien belle invention.
À savoir, évidemment, l'orgasme vaginal par pénétration qui serait meilleur et plus pur, blablabla, que l'orgasme clitoridien. Mais bon, Dieu merci, Dieu, non, merci, c'est en train d'être balayé par de nouvelles études et constats sur le sujet.
Ouais, et notamment, on a découvert ça avec un petit essai là, qu'on ne vous avait pas présenté en début d'épisode, qui est écrit par l'écrivain Martin Page, qui a décidé de s'emparer de ce sujet. L'essai s'appelle « Au-delà de la pénétration », il est paru en mars 2019. Il a fait un petit peu de bruit dans les sphères, féministes, etc. Puisque, en fait, il remet en question... il s'est rendu compte, en fait, que la pénétration était un peu trop centrale dans la vision d'une vie sexuelle dans un couple hétérosexuel.
Et il faut préciser ça.
Oui, précisons. Et que, en fait, c'était une vision de base construite socialement. Donc en fait, avec cet essai, il s'attache à déconstruire ce cliché qui est encore la vie dure, qui dit grosso modo que en fait, sans pénétration, pas de rapport sexuel. Voilà. Donc il y compile des témoignages de personnes s'exprimant sur ce sujet et remettant tout à fait en cause cette vision totalement traditionnelle qui ne correspond pas forcément à la réalité. Donc voilà, ça, en fait, ça permet de faire entrer ça dans un débat sur l'égalité homme-femme et justement de peut-être cesser de voir le sexe féminin comme un simple trou, pardonnez-moi l'expression.
Oui.
Et voilà, bon, ça méritait d'être mentionné, en tout cas, sur ce sujet-là.
Okay. Et pour revenir donc, sur ce, peut-être le plus grand tabou de l'histoire, à savoir les règles, voici comment, en 23 après Jésus-Christ, Pline parlait des règles.
Action.
Difficilement trouvera-t-on rien qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel. Une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche, en les touchant frappe de stérilité les céréales, de mort les greffes, brûle les plants des jardins. Les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent, son regard ternit le poli des miroirs, attaque l'acier et l'éclat de l'ivoire, les abeilles meurent dans leurs ruches, la rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer et une odeur fétide s'en exhale. Les chiens qui goûtent de ce sang deviennent enragés et leur morsure inocule un poison que rien ne peut guérir. Rien que ça.
J'avais un petit début de faux rire quand t'étais en train de dire.
Pardon.
C'est très... Ouais, bah oui, ça a la vie dure, hein, puisqu'il y a certaines croyances qui continuent encore d'exister. Notamment, par exemple, de rater la mayonnaise. Moi, c'est ce qu'ils disaient dans
oui,
ma
bien
famille.
Sûr, bien sûr.
Ou de... Oui, effectivement,
tu peux pas faire monter la mayonnaise quand t'as tes règles. C'est pas possible.
Ben non, c'est scientifiquement prouvé.
C'est sûr.
Et ce tabou est bien et joliment amené aussi dans un court-métrage qui s'appelle, bon, en anglais, Period End of Sentence, qui en fait s'appelle Les règles de notre liberté en français, disponible sur Netflix, me semble-t-il.
Qui a été oscarisé.
Aussi, accessoirement. Et en gros, c'est en Inde, on décrit comment les règles sont vues dans un village. Et on remarque qu'en fait tout le monde a honte d'en parler, et puis il y a aussi une profonde méconnaissance de ce phénomène chez les garçons qui ne savent même pas ce que c'est et en fait
à quoi ça sert.
Voilà, que voilà. Et les femmes ne sont incapables d'en parler, même entre elles. Donc voilà. Et puis ça pose beaucoup de soucis pour les femmes. Elles manquent de protection périodique, donc ça a une influence très négative sur leur vie quotidienne. Donc ça raconte l'histoire de villageoises qui se mobilisent pour fabriquer des serviettes périodiques à partir d'une machine artisanale. Voilà, ça illustre aussi les disparités qu'il peut y avoir dans les différentes régions du monde, de savoir comment les règles peuvent être vécues au quotidien, est-ce qu'elles peuvent signifier comme une égalité. C'est Élise Thiébaut en parle aussi. Et d'ailleurs, Élise Thiébaut nous parle d'une poétesse qui s'appelle donc Ruby Cord, dont vous avez entendu les extraits tout au long de cet épisode, qui a été une des artistes assez récemment mobilisée pour mettre en lumière justement cette contradiction, c'est-à-dire pourquoi on passe sous silence même le mot « règle » et pourquoi est-on si prompt à insulter les femmes de traîner, de pute, de salope, enfin, pourquoi ces mots-là sont-ils si bien, si bien utilisés, tandis qu'un phénomène naturel n'est pas nommé, quoi. Donc, elle s'est mobilisée en postant une photo d'elle sur Instagram avec un vêtement taché de sang. Et c'est un procédé qu'elle a utilisé justement pour pouvoir en parler, pouvoir un peu marquer les consciences avec cette image. Voilà, et Élise Thiébaut, dans son livre, salue cette initiative, puisque du coup, ça permet un peu de décomplexer tout le monde à ce sujet, quoi. Plus on en parle.
Une tâche de règle, c'est. En fait, c'est le quotidien. Enfin, c'est pas quotidien, mais c'est tellement classique pour toutes les femmes du monde.
Oui.
On a toutes eu une fois donné un vêtement taché par le sang des règles.
Oui,
quoi,
oui,
c'est... Il n'y a rien de plus classique. Quoi.
Ouais.
Mais c'est ça, c'est qu'aussi c'est la honte suprême.
Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'avec des gestes comme ça, qui peuvent paraître très très forts, c'est un peu
ça
comme ça qu'on arrive à dédramatiser et puis à rendre vraiment le côté naturel du phénomène. Briser le tabou.
Briser le tabou.
Apparemment, c'est déplacé de ma part de parler de mes règles en public, parce que la biologie de mon corps est trop réelle. C'est plus acceptable de vendre ce qu'il y a entre les cuisses d'une femme que de parler de son fonctionnement intérieur. L'usage divertissant de ce corps est jugé beau, alors que sa nature est jugée laide.
Et avant de terminer cette émission, moi, je voulais faire une petite aparté sur Roxane Gay. C'est moi qui ai un peu insisté pour que Hunger fasse partie de notre sélection. J'y tenais vraiment parce que, en fait, moi, ce bouquin, quand je l'ai lu, il m'a touchée comme rarement, en fait. Il m'a bouleversée. J'ai pas lu tous les écrits de Roxane Gay, j'en ai lu pas mal, mais j'ai pas tout lu. Mais en tout cas, quand je l'ai découverte, c'est par Bad Feminist, dont je parlais plus tôt, qui est vraiment un best-seller, et je crois que toutes les personnes qui veulent s'intéresser à Roxane Gay devraient commencer par celui-là. En fait, pour moi, ce bouquin, ça a été une révélation. Elle mettait des mots sur des sensations que j'arrivais pas à formuler, elle me déculpabilisait de beaucoup de choses. Cette manière de dire que personne n'est parfait, que tout le monde fait des erreurs, et que c'est aussi valable pour une militante féministe. Qu'une féministe n'a pas réponse à tout, qu'elle ne sait pas tout, et qu'elle se trompe, que c'est normal. Ça peut paraître tout bête, hein, mais moi, ces quelques phrases m'ont fait un bien immense. Enfin, en quelques mots, il y a eu un avant et un après Bad Feminist. Concernant Hunger, c'est autre chose. C'est un livre très personnel, le plus personnel qu'elle n'ait jamais écrit, le plus difficile à écrire, du coup, avoue-t-elle. C'est clairement une mise à nu. La première phrase du bouquin et le premier chapitre, c'est « Chaque corps a un passé et un passif ». Ici, je raconte ceux du mien, de mon corps et de ma faim. Voilà, ça tient en 21 mots. Elle plante le décor, elle explique dès lors qu'il n'est en aucun cas question de savoir généraux, comme il pouvait en être le cas chez Mona Chollet, chez Élise Thibault, dans L'Origine du Monde et tout. Elle parle de son corps, le sien, elle ne parle pas du mien, elle ne parle pas celui de Léa. Elle ne parle pas de corps de manière globale, elle parle uniquement du sien, ça en fait un livre différent de toute notre sélection, et d'une certaine manière, c'est le seul témoignage profondément personnel de notre sélection. Et après, c'est très, très difficile et très, très doux à la fois comme livre, mais elle se distingue toujours par sa plume, sans détour, très directe, très sincère. Elle fait preuve toujours de beaucoup d'humour dans ses bouquins, de beaucoup de détachement, de beaucoup de discernement. De toute façon, c'est une femme qui a l'air très drôle dans ses stories Instagram. Ouais. Je vous pousse à la suivre, elle est hilarante, elle est pleine de naturel, c'est un bonheur. Et donc du coup, voilà, moi, je tenais juste à faire une petite aparté sur cette femme qui a l'air d'être... un bijou. J'aime Roxane Gay. Voilà, je le dis. J'aime Roxane Gay.
Mais oui, je suis assez d'accord avec toi au final.
Et d'ailleurs, comment réagirait le monde si les hommes subissaient les mêmes violences? Et si on essayait de renverser les signes de pouvoir? Parce que si on compare, les hommes ne subissent jamais les mêmes violences. Il y a une vraie asymétrie, en fait, entre la représentation du corps de l'homme et du corps de la femme, entre la représentation de la sexualité masculine et de la sexualité féminine. Et d'ailleurs, en aparté, on n'en a pas spécifiquement parlé, mais il y a aussi les personnes transgenres qui subissent des formes d'oppression parfois plus violentes. Comment réagirait le monde si l'anorexie ne touchait pas 90% de femmes, mais l'inverse? Même questionnement récemment sur l'IVG. Que se passerait-il si les hommes pouvaient tomber enceintes? L'IVG serait probablement inscrit dans la Constitution depuis longtemps. Tout serait beaucoup plus facile, accessible. On peut imaginer qu'on ne parlerait pas de l'avortement, de l'anorexie, des grossesses dans les pages santé des magazines généralistes. On en parlerait carrément en première page. Et aussi, qu'est-ce qui se passerait si c'était les hommes qui avaient leurs règles? S'il n'y avait par exemple que 30% des hommes qui atteignaient l'orgasme à chaque rapport et non l'inverse? Mais au final, la réponse importe-t-elle vraiment? En gros, le corps des femmes est politique. Voilà ce que ces ouvrages nous ont appris. Ils nous ont aussi appris que les réalités pouvaient évoluer. C'est ce qui s'est toujours passé au cours des siècles. Rien n'est inéluctable, tout reste encore à écrire. Ces ouvrages nous apportent aussi, en plus d'une prise de conscience, des clés et des outils pour nous permettre de parler de nos corps, de les assumer. Et pourquoi pas, de changer la donne.
Merci d'avoir écouté le second épisode de La Vagabonde.
Merci.
Merci à Bastien Jackson pour le montage, à Théophile Denis pour la musique et à Clémence Bénazet pour la lecture des poèmes de Roupicor. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Instagram sur La Vagabonde Podcast. À très vite.
Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.